Les utopies de Charles Fourier. Peut-on imaginer une société harmonieuse où les passions de chacun seraient totalement satisfaites? Où l'insécurité, la pauvreté, endémique en 1830, n'existerait plus? Vous en avez rêvé? Charles Fourier l'a fait. Pour Fourier, 1772-1837, Claude de Saint-Simon, 1760-1825, qui prétend organiser la société pour favoriser l'industrie, est un charlatan. Fourier considère que les sociétés humaines sont des forêts de sentiments inexplorés, attaqués et repoussés par l'État et la religion. Sentiments qu'il faut identifier comme on a pu le faire pour les végétaux. Il recense donc les passions sensuelles, affectives, distributives, et imagine des unités de vie où les habitants sont rassemblés en fonction de leur passion dominante. L'identification de la passion dominante permet de régler harmonieusement l'activité du groupe. Les kabbalistes, qui ont la passion de l'organisation, conduisent les travaux. Les papillons, qui aiment le changement, assurent les tâches saisonnières ou temporaires. Les petites hordes sont composées d'enfants chez qui on a remarqué une passion pour la manipulation d'immondices. Ils vont servir des boueurs. Ainsi est obtenue une société qu'il qualifie de chimiquement parfaite. Chaque unité de vie, la phalange, qui remplace la famille, source de conflits et d'autorité, compte 1600 personnes, hommes et femmes à égalité. Elle est logée dans un phalanstère. C'est une sorte de palais en forme d'étoile au milieu d'un parc de 400 hectares. Le logement et la nourriture y sont collectifs. Les salaires sont déterminés sur la base du capital, du travail et du talent. Tout y est réglé au préalable, jusqu'à la façon de s'habiller. La polygamie y est étendue à tous afin de ne plus contrarier les sentiments et de parvenir à une nouvelle forme de chasteté. Le phalanstère comporte des galeries marchandes, des bibliothèques, un temple pour accueillir 1500 personnes. 90% des phalanstériens sont des cultivateurs ou des artisans, les 10% restants sont des artistes et des savants. Les enfants sont élevés en commun, l'éducation conjugue théorie et pratique, chaque membre connaissant 20 métiers en pratiquera 5 ou 6 par jour. Les disciples de Fourier tentent de réaliser l'utopie du maître. C'est un échec total. Seul le fabricant de poils Godin, 1817-1888, obtiendra des résultats positifs. Il crée en 1856, à Guise, dans l'Aisne, au lieu du phalanstère, le familistère. Il y institue le système coopératif. Ce familistère comporte 500 logements, familiaux et traditionnels. Au confort moderne, aux courantes, toilettes, vie d'ordure, luxe incroyable à l'époque. On y trouve aussi un théâtre, des économas, des écoles, des pouponnières, une piscine, un lavoir, un parc. Le familistère, enfant de l'utopie fourriériste, qu'on peut visiter aujourd'hui à Guise, est tombé dans l'escarcelle capitaliste en l'an 1968.
Allumer une bombe n'aurait pas davantage d'effet. Le 26 juillet 1830, les ordonnances sont signées. Le 27, c'est l'explosion. Dans Paris, où la troupe investit les imprimeries qui ont bravé l'interdit de publication, la population se masse au carrefour. Les soldats chargés de les disperser reçoivent sur la tête des pots de fleurs, des tuiles, des bûches. Des barricades commencent à barrer les petites rues. Des cocardes tricolores font leur apparition. Les républicains, pleins d'espoir, sont en première ligne. Dans la nuit du 27 au 28 juillet, on dépave les rues. On prépare les munitions et les armes après avoir pillé les magasins d'armurerie. On brise les réverbères. Tout cela en criant « À bas les Bourbons !» Le 28 juillet, les rues sont couvertes de tessons de bouteilles. Les arbres des grands boulevards ont été abattus. Une partie de la troupe va bientôt fraterniser avec le peuple. Le 29, le palais Bourbon est pris par les insurgés qui, vers 13h, envahissent le Louvre. Une commission municipale s'installe à l'hôtel de ville, se proclame gouvernement provisoire. Ses membres font partie de la société « Aide-toi, le ciel t'aidera », composée de francs-maçons aux aspirations démocrates, dont le membre le plus important est François Guizot. En trois journées, les 27, 28 et 29 juillet, appelées les Trois Glorieuses, le régime de Charles X est renversé. Une grande question se pose. Vers qui vont aller les bénéfices de ce changement? Vers les républicains? Vers les bourgeois libéraux? Le 30 juillet, les Parisiens ont pu lire sur les murs une affiche dont le texte a été rédigé par Adolphe Thiers, un libéral, ami de Talleyrand et du banquier Lafitte. Charles X ne peut plus entrer dans Paris, il a fait couler le sang du peuple. La République nous exposerait à d'affreuses divisions, elle nous brouillerait avec l'Europe. Le duc d'Orléans est un prince dévoué à la Révolution. Le duc d'Orléans ne s'est jamais battu contre nous. Nous n'en voulons point d'autre. Le duc d'Orléans est le fils de Philippe Égalité qui est mort sur l'échafaud et qui a voté la mort de Louis XVI. Le duc d'Orléans, descendant du frère de Louis XIV, va devenir non pas le roi de France, mais dans un souci de rapprochement avec le peuple, roi des Français. Le 31 juillet 1830, le nouveau roi, qui prend le nom de Louis-Philippe, se rend à l'hôtel de ville où Lafayette l'accueille. Un grand drapeau tricolore a été préparé, Lafayette en enveloppe Louis-Philippe, l'embrasse. La foule, qui adore les signes, les symboles et les paraboles, applaudit à tout rompre, sans s'apercevoir que le parti bourgeois confisque sous ses yeux, sous ses vivats, le bénéfice des Trois Glorieuses.
Louis XIX ou Henri V? Déposé par le peuple des Trois Glorieuses, Charles X fait mijoter l'illusoire petite cuisine de sa succession. Voyons, voyons, qui pourrait bien prendre la suite? Mais le dauphin, évidemment. Charles X signe donc son abdication le 2 août 1830. À ses côtés se tient le duc d'Angoulême, le dauphin, à qui il tend la plume, lui proposant de signer aussi, ou de ne pas signer, son abdication. La France, en cet instant, a donc un nouveau roi, Louis XIX. Mais la plume se pose sur l'acte de renoncement. Louis XIX abdique après 2 minutes de pouvoir. Il reste Henri V, le fils de Marie-Caroline et du duc de Berry, assassiné en 1820. Le petit roi de 10 ans, vêtu d'un uniforme de colonel des cuirassiers, modèle réduit, est présenté à la troupe royale enthousiaste. Mais ce sera tout. Avant 1873.